Et c'est une semaine que nous allons passer au cœur même de l'histoire du Limousin, au cœur de l'histoire d'Oradour-sur-Glane, d'hier et d'aujourd'hui, hein, puisque nous allons balayer 70 ans d'histoire et nous intéresser également au fil de la semaine à ce qu'est Oradour aujourd'hui, ce nouvel Oradour qui a été reconstruit. Et pour ce faire, nous allons partager la semaine avec deux invités, Robert Hébras, rescapé du massacre et qui porte évidemment la parole de cette date du 10 juin 44. Et puis à nos côtés également, Benoît Sadric, conseiller municipal et dont les membres de la famille ont également été concernés par ce massacre. On va évidemment revenir sur l'histoire dans notre rendez-vous de demain. On ira parcourir les ruines du village martyr également dans le courant de la semaine. Mais peut-être pour commencer, une petite présentation de nos deux invités. On va commencer avec vous, Robert Hébras, natif d'Oradour-sur-Glane.
Né à Oradour le 29 juin 1925. J'étais à l'école à Oradour. J'ai vécu à Oradour jusqu'à au 10 juin 1944.
On oublie trop qu'il y a eu un avant, parce qu'effectivement, vous avez vécu quasiment 19 ans à Oradour, donc on a forcément blâme d'une chose.
J'ai vécu 19 ans à Oradour, j'allais travailler à Limoges après mon certificat d'études, j'allais travailler à Limoges tous les jours par le tram, mais j'ai vécu avec mes parents pendant pratiquement 19 ans à Oradour.
Avec forcément des bons souvenirs, puisque quand on a tendance à parler d'Oradour, on a tendance à parler de choses dramatiques, mais vous avez forcément des bons souvenirs.
Quand on est enfant et adolescent, on a toujours de bons souvenirs.
Alors justement, on parlera notamment demain avec le retour sur l'effet de l'état d'esprit dans lequel vous étiez, de tous ces beaux moments, et on essaiera d'être peut-être un peu plus positif et de faire ressortir les beaux éléments. Évidemment, il y a eu ensuite cette date importante du 10 juin. Ça veut dire que le reste de votre vie a été marqué, forcément influencé par ce qui s'est passé, et ce que vous aviez peut-être imaginé de votre vie adulte a été un peu chamboulé et vous avez adapté cette vie à ces événements.
Effectivement, ma vie a été entièrement chamboulée. Ce que je suis devenu aujourd'hui, lorsque je n'avais jamais imaginé que je serais un homme qu'on connaîtrait beaucoup. Moi, je suis fils d'ouvrier. Je faisais mon apprentissage de mécanicien à Limoges et je pensais finir ma vie jusqu'à ma retraite comme ouvrier mécanicien.
Dans le caractère aussi, ça rend plus fort forcément.
Oui, parce que je le dis et je le redis, et je crois que le soir du 10 juin, je suis devenu un homme. Le matin, j'étais un adolescent inconscient. Et le soir, je crois que je suis devenu un homme.
Avec cette histoire sur laquelle on reviendra demain, vous vous sentez prisonnier un petit peu de cette histoire, même si elle vous a apporté de la force, peut-être de caractère. On est un peu prisonnier parce que votre vie aujourd'hui, hein, quand on dit Robert Hébras, évidemment, on fait tout de suite référence à l'histoire d'Oradour.
Je suis plus que prisonnier. Je suis vraiment englué dans cette affaire. On essaie de s'en sortir, mais enfin... Dans les manifestations partout, hier j'étais à Saint-Junien, j'ai entendu des gens « Ah, c'est le monsieur d'Oradour ». Il y a des fois même, quand je vais faire mes courses au supermarché, j'essaie de baisser la tête pour qu'on ne me voit pas trop.
Surtout que vous passez beaucoup de temps à transmettre la parole aux enfants notamment.
Je vais en Allemagne très souvent, je reçois énormément de jeunes dans le centre de la mémoire et tout. Effectivement, je suis souvent sur les journaux, alors...
Votre visage et parle beaucoup.
Oui, mon visage parle beaucoup.
Et puis Robert Hébras, on va, avant de revenir dans un instant sur le lieu dans lequel nous nous trouvons pour le présenter, ce centre de la mémoire, échanger quelques mots également avec notre deuxième invité, deuxième guide de cette semaine avec qui nous parcourons mercredi et jeudi les ruines du village martyr. C'est vous, Benoît Sadric, je l'ai dit, conseiller municipal à Oradour, et l'histoire de votre famille qui est étroitement liée à celle de ce 10 juin 44.
Oui, effectivement, j'ai ma famille qui a perdu plusieurs membres, notamment des enfants. Le berceau de ma famille était dans un village, mais c'était un jour d'école. Donc, sur sept petits enfants, ma grand-mère n'en avait plus que un le soir des événements. Et elle avait également perdu une fille et puis bon, plusieurs cousins à des titres plus ou moins éloignés.
Comment ça impacte votre vie aujourd'hui ?
À l'inverse de ce qu'on peut entendre bien souvent, je veux dire, habiter Oradour et être lié à l'événement n'apporte rien de particulier. Je veux dire, c'est pas forcément non plus un poids. C'est surtout que on se sent concerné par l'histoire. C'est une certaine responsabilité de voir communiquer sur ce qui s'est passé ici à Oradour. Je veux dire, aujourd'hui, à plus forte raison encore, avec ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, mais parfois même en France, des événements terribles, il faut montrer aussi toute la douleur des gens. Enfin, c'est des histoires humaines, en fait, auxquelles on s'intéresse. Et c'est pas seulement des listes de noms, des chiffres de victimes, etc. C'est ce qui est important, c'est... Oui, certes, il y a des victimes, mais comment les gens à côté de ça se reconstruisent, vivent? Et en fait, c'est probablement plus aujourd'hui même le message d'Oradour d'apporter une voix sur les difficultés de se reconstruire, mais de dire qu'en fait, c'est possible. Et en fait, derrière la journée tragique du 10 juin, c'est aussi un beau signe d'espoir, puisque 70 ans après, Oradour compte près de 2500 habitants, ce qui est beaucoup plus qu'à l'époque des événements. Il a fallu presque 50 ans pour revenir au seuil de 1944 en termes d'habitants, mais depuis les années 2000, Oradour a augmenté de 500 habitants. Elle possède différents commerces, tous les services, etc. Donc en fait, c'est devenu aussi une ville attractive, et la présence des ruines, qui attire des touristes tous les ans, n'est en soi pas une gêne pour la vie des habitants et la vie tout court de la cité.
Un mot également, on le disait, de ce site où nous nous trouvons en ce moment, le Centre de la Mémoire, donc qui lui bien s'occupe justement de raconter cette tragédie et de faire vivre aussi les souvenirs de ceux qui ont péri il y a 70 ans maintenant. Avec quelle volonté? Ça a été ouvert en 99, si je ne dis pas de bêtises.
L'histoire du Centre de la Mémoire remonte en fait 11 ans avant. Au moment de la disparition de l'unique témoin de l'église, Madame Roufanche, les survivants de l'époque se sont dit, en fait, mais on voit partir peu à peu les gens qui ont connu cette expérience-là, qu'est-ce qui va rester après nous? Et l'idée était un petit peu de figer cette mémoire, avoir un lieu de transmission qui dépasserait la génération des témoins. Petit à petit, le projet a été accueilli très favorablement par l'équipe municipale en place, mais présenté au conseil régional, au conseil général, aux plus hautes instances de l'État. Et le conseil général a choisi d'être le partenaire privilégié de cette opération-là et a aujourd'hui en charge le Centre de la Mémoire par le biais d'un établissement public. Il a été ouvert après un long processus de recherche historique, un concours d'architectes également pour faire de ce lieu un lieu significatif. Ces grandes plaques de métal qui s'érigent du sol montrent que cette terre a reçu un impact cruel. C'était la volonté de l'architecte. Et en fait, tout cela permet un nouvel accueil des gens qui viennent, parce que ces gens qui viennent ne sont plus tout à fait les mêmes générations qui venaient après-guerre, qui connaissaient l'histoire, etc. Aujourd'hui, il faut aussi donner des clés de lecture de l'événement que les gens vont voir. Sinon, peu à peu, les ruines d'Oradour se transformeraient en ruines, je dirais, qui parleraient moins aux nouvelles générations. Et là, en fait, dans le centre, on part depuis le départ, depuis la montée du nazisme, et montrer par quel processus, dans cette idéologie-là, on a pu arriver à une telle abomination. Et bon, on aborde un petit peu après la reconstruction d'Oradour, mais le but, c'était quand même de montrer aux gens que les fanatismes peuvent provoquer de vraies tragédies humaines. Et que c'est pas seulement des tragédies qu'on voit qui se passent à l'autre bout de la planète, à la télévision. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous a touchés ici. 70 ans, finalement, c'est assez court en mémoire d'homme. Témoignage est important à faire vivre. Et donc, c'est la mission du Centre de la Mémoire. Et ça nous a permis, avec cette nouvelle structure, de constituer des fonds aussi sur Oradour, de faire un travail de recherche en partenariat souvent avec l'Association des Familles des Martyrs, sur les victimes, sur rechercher des photos, avoir un lieu où on pouvait centraliser aussi la vie d'Oradour avant.
C'est-à-dire que le visiteur qui veut vraiment visiter, il visite le Centre de la Mémoire, après il va visiter le village et aussi il visite ses expositions. Là, pour l'instant, il y a l'exposition des visages. C'est quelque chose quand même qui est énormément poignant.
effectivement cette exposition que l'on entend derrière nous, hein, on a le nom de ces victimes, ces visages qui apparaissent, qui amènent un peu d'humanité et éviter de rester sur ce chiffre de 642 victimes, voilà, d'avoir des visages, des âges.
Ah oui, mais moi il y a une, enfin je connaissais pas quand même tout le monde, mais il y a une majorité évidemment de personnes que je connaissais, que je revois aujourd'hui et qui eux n'ont pas vieilli. Moi j'ai vieilli, eux n'ont pas vieilli.
Avant de refermer ce premier rendez-vous aujourd'hui, un mot sur ceux qui viennent à la découverte de ce site.
Tous les ans, il y a à peu près entre 250 000 et 300 000 personnes qui viennent visiter Oradour. Un très gros tiers, voire presque la moitié, visite le centre de la mémoire. Il y a en période scolaire énormément de classes qui viennent, donc ça c'est très important. C'était aussi une des vocations du centre de la mémoire d'accueillir les classes. Bon, il y a évidemment des gens locaux. Les gens locaux, c'est souvent, on reçoit de la famille, on vient leur faire visiter Oradour, on reçoit des amis, on leur fait visiter Oradour. Mais aussi, il y a énormément d'étrangers maintenant. Bon, on a toujours eu énormément, par exemple, de Néerlandais et d'Anglais, parce que pendant la période estivale, c'est sur la route qui les menait sur leur lieu de vacances, et ça a toujours été un passage naturel. Après, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'Allemands, il y a de plus en plus d'Espagnols, parce qu'il y a eu des victimes espagnoles à Oradour. Quelques articles, quelques vidéos ont retracé un peu le parcours en Espagne, et depuis, c'est vrai qu'on a eu quelques dizaines de visiteurs espagnols qui sont venus, mais après, bon, c'est des gens partout dans le monde qui viennent et c'est très bien ainsi.
Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Robert Hébras, également tout au long de cette semaine. Benoît Sandrine, on va se retrouver mercredi puisque nous irons ensemble sur les ruines du village martyr ici à Oradour-sur-Glane. Le temps, évidemment, avec Robert Hébras demain de revenir sur cette date tragique du 10 juin 1944. Et nous passons cette semaine installés à Oradour-sur-Glane. Nous sommes toujours pour ce deuxième rendez-vous installés au cœur même du centre de la mémoire, toujours avec Robert Hébras, rescapé de ce massacre d'Oradour-sur-Glane. D'abord, Robert Hébras, le rappel du contexte historique, tout simplement, avant ce 10 juin 44.
Avant ce 10 juin 44, Oradour est un village, comme tous les villages du Limousin, un village rural. Sans qu'il y ait quoi que ce soit. La majorité des gens d'Oradour n'avaient jamais vu de soldats allemands.
On découvre cette vie de village d'ailleurs dans l'exposition qui est en place en ce moment. On a des cartes postales, on a des photos, on a la chance d'avoir des photos de l'époque.
Oui, encore, ben oui, parce que le village, le village a été détruit, mais enfin, il y a quand même des photos des personnes, des hameaux aux alentours quand même. C'était un village rural, c'est la guerre, oui, mais où on souffre pratiquement pas de la faim, parce que s'il manque certaines choses, le café ou le beurre, il y a quand même des haricots, des pommes de terre, moi je vois chez moi, on avait 2-3 poules, il y avait 2-3 lapins, la vie était pratiquement comme avant la guerre.
C'est la force de l'aspect rural, évidemment, de oui. Notre Limousin.
Oui, avec la différence qu'il y avait quelques familles qui avaient les leurs prisonniers de guerre, ou certains qui étaient partis au service du travail obligatoire, mais sortis de là, rien ne présageait ce qui est arrivé. Il n'y avait pas de résistance autour, il n'y avait pas rien de particulier.
Alors, avant de parler du jour du 10 juin, évidemment, votre état d'esprit à vous à l'époque, vous n'aviez pas tout à fait 19 ans encore.
Moi, mon état d'esprit, c'est que le matin, je prenais le tram à 7 heures pour aller travailler à Limoges. Je rentrais le soir à 7 heures avec le tram, toujours. Mon père étant employé de la compagnie des trams, il était électricien, je ne payais pas le tram. Mais moi, mes soucis, c'était d'attendre le dimanche. De sortir avec les copains et les copines, à vélo ou faire du foot, on ne se posait pas beaucoup de questions.
C'était finalement la belle vie, si on voulait le résumer
oui,
comme ça.
Oui, c'était la belle vie, une vie simple, mais où tout le monde était relativement heureux.
Et les choses vont basculer d'un jour.
Dans une après-midi.
On raconte, on essaye de retracer le fil de cette journée, évidemment, que vous n'oublierez jamais.
Il est 14h, aux alentours de 14h le matin, Oradour vit comme tous les jours. Quand je vois arriver deux véhicules chenillés qui traversent le village, avec des soldats à l'intérieur, la première chose que je me pose, je me dis, tiens, c'est 4 jours après le débarquement, je me dis, bon, ben, c'est la direction de la Normandie, puis ils montent sur la Normandie. Lorsque je regarde, je vois des soldats qui descendent des véhicules. Je ne me pose pas trop de questions, parce que moi, les Allemands, je les vois tous les jours. Je suis à Limoges, je rencontre tous les jours des soldats.
Donc il n'y a pas d'appréhension particulière?
J'ai pas d'appréhension particulière, parce que si aujourd'hui on sait qu'il y a des SS et d'autres, à l'époque on ne savait pas. Donc ces soldats les voient descendre, et puis les deux véhicules redescendent, retraversent le village à vide, et deux soldats descendent de chaque côté de la rue pour donner l'ordre à la population d'aller au rassemblement. Alors ce que je précise, c'est que vu le bruit que les véhicules ont fait, toute la population est déjà dans la rue. Ils n'ont aucune difficulté de chercher des gens. Je vois encore ma maman qui sort devant la porte avec son assiette et son torchon. Elle devait être en train de faire sa vaisselle. Oui. Donc tout le monde était dans la rue. Et lorsque ces soldats sont arrivés à ma hauteur, il y avait déjà du monde. Ils nous disaient place, place.
Ça veut dire qu'on suit le mouvement sans savoir vraiment vers quoi on se dirige.
Je suis parti avec ma mère et ma sœur aînée. Ma petite sœur était à l'école. On est parti avec les autres.
Et donc là, vous allez être conduit dans un lieu pour rassembler avec une séparation entre les hommes, les femmes et les enfants.
C'est-à-dire qu'il y a le rassemblement sur la place, où on est quand même relativement proches les uns des autres. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a des soldats qui passent à travers le groupe et qui séparent les femmes et les enfants, des hommes. Les femmes et les enfants sont mis du côté droit de la place où il y a la voiture aujourd'hui. Et puis nous, les hommes, on nous donne l'ordre de nous mettre sur le trottoir.
Donc là, on commence à se dire qu'il y a quelque chose de curieux ou toujours pas?
Oui, on pense déjà au papier d'identité. Enfin, moi, chacun le vit à sa façon, je ne sais pas ce que les autres ont pensé. Moi, je me dis, tiens, on va me demander mes papiers d'identité. Et comme par hasard, je suis parti de chez moi sans les prendre. Pourtant, on me les demandait à l'époque presque tous les jours. Mais dans ma petite tête, je me suis dit, je suis pas loin. S'ils me les demandent, j'irai les chercher. Il faut dire aussi que tout ce qui se passait avant, même le drame de Tulle la veille, personne ne savait ce qui s'était passé.
Mais pas les réseaux sociaux d'aujourd'hui.
Ni les camps de concentration, ni rien. Personne ne connaissait tout ça. On a appris tout ça quand même après. Donc c'est pour cette raison que bon, c'est la troupe d'occupation. Ben, on n'en fait pas plus.
Alors on est séparés sur cette place.
La séparation est faite. Les femmes et les enfants s'en vont dans la direction de l'église.
Là, avec une impression, quand on est même si on est un adolescent à 19 ans, mais on a une inquiétude de se dire, voilà, on va partir sa mère et sa petite sœur. Pourquoi on nous sépare ou où est-ce qu'ils vont?
Non, pas particulièrement, parce que avec ma maman, on avait les dernières paroles que nous avons eues quand nous allions au champ de foire. Ma mère m'avait dit, t'aurais bien fait de te cacher parce qu'ils vont t'emmener en Allemagne. J'avais à peu près l'âge de partir pour le service du travail obligatoire que je me suis retourné. J'ai dit, t'inquiète pas, je suis en règle. J'ai mes papiers, je suis en règle. Ne t'inquiète pas pour ça. Donc, non, pas d'inquiétude. Mais c'est l'adolescence. Hein. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, je me pose la question. Je me dis, mais comment avons-nous pu faire pour ne pas avoir un doute quelconque. Parce que même autour de moi, il y avait des hommes qui avaient fait la guerre 14-18, il y avait des mutilés de la guerre 14. J'ai vu personne relativement inquiet. Je n'ai entendu personne dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, par exemple. Donc, les femmes sont parties, le soldat demande au maire de se présenter, c'est ce que le maire fait. Le soldat qui s'adresse à lui s'adresse en français à lui. Il demande de désigner les otages, le maire se
désigne,
mais refuse de désigner qui que ce soit. Puis après, on nous demande si nous avons des armes. On nous dit, dans le village, il y a des armes, nous allons les rechercher, et ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Donc c'est le soulagement général. Le soulagement général, mais pas la peur de mourir. C'est le soulagement général de que chacun pense à son travail. J'entends le boulanger dire, il faudrait que j'aille voir mon pain qui va brûler. le paysan qui dit, moi, j'ai mes vaches à soigner ce soir, et j'en passe, vous voyez. Ce n'est que des réflexions comme ça.
On a déjà perdu un quart d'heure, il faudrait qu'on y retourne.
Voilà. Et puis c'est de là qu'ils font des groupes et qu'ils nous conduisent dans divers lieux. Ils nous ont aidés, on vous garde. Tout est calme, mais ils ne sont pas agressifs. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a rien qui présage quoi que ce soit.
Et donc vous allez chacun vous retrouver dans des lieux différents et en ce qui vous concerne...
Je me retrouve par hasard, c'est bien la destinée. Je suis presque à côté du maire quand le maire parle. Et puis j'aperçois des copains qui sont tout à fait à l'opposé. Je les rejoins. Et puis de là, il y a eu 4 groupes qui sont partis dans divers lieux différents.
Alors vous vous retrouvez à quel endroit ?
Le seul endroit où il y a eu des survivants, c'est la grange Loudy. Pourquoi je me retrouve dans cette grange, je ne sais pas. Pourquoi je suis là, je ne sais pas non plus.
On culpabilise, on se pose beaucoup de questions après ?
Oui, je me dis souvent, pourquoi mon meilleur ami qui est à côté de moi est mort, pourquoi je suis là ?
On se rassure en disant, peut-être aussi pour défendre sa mémoire aujourd'hui ?
Je ne sais pas. Je ne crois pas à tout ça.
C'est-à-dire que même autant d'années après, ça serre encore les tripes.
Moi, j'ai encore du mal, parce que quand même, dans la grange, on doit être entre 50 et 60. Il y a 5 survivants. Pourquoi, moi, je fais partie de ces 5 survivants ?
Alors, on va expliquer aussi comment ça s'est passé, parce que cette survie, vous la devez aussi à vous ?
C'est l'instinct. C'est l'instinct, j'ai rien fait de particulier. La fusillade se passe, j'ai la chance, je ne suis pas blessé grièvement, on met le feu sur nous. Quand le feu m'atteint, que ça commence à me brûler les cheveux et tout, bon, c'est quand même atroce. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont morts, brûlés vifs, parce que beaucoup étaient touchés quand même aux jambes et n'étaient pas morts. Quand le feu m'atteint, je ne veux pas mourir brûlés vifs. Je sais que je vais mourir quand même, parce que pour moi, les soldats sont devant la porte. Je me dégage de dessous les autres. Je prends la décision de sortir. C'est-à-dire, je choisis ma mort. Excusez l'expression. Et puis, les soldats sont plus là, c'est tout.
Donc ça, je suppose aussi qu'on ne peut pas imaginer ce que vous avez encore en tête. C'est sûrement ces bruits, cette ambiance terrifiante qu'on ne peut pas oublier.
Et que je ne peux pas décrire. Ces cris, ces basses, cette odeur, ce sang, ça, je ne peux pas le décrire, ça. Et j'ai beaucoup de difficultés à en parler.
En tous les cas, on voit que les choses sont marquantes. Alors ça, c'est ce qui s'est passé pour vous. Et ensuite, vous avez découvert ce qui s'était passé pour les femmes, pour les enfants dont vous aviez été séparés peu de temps avant.
Oui, alors là, je l'ai découvert parce que j'ai rejoint chez ma sœur le dimanche, chez une sœur aînée qui était mariée, qui n'habitait plus avec nous. Pensant retrouver ma maman et mes 2 autres sœurs, parce que dans ma tête je me suis dit elles ont été là-bas quoi, elles ont vu brûler le village, elles sont parties là-bas. Le soir quand je suis sorti du village, moi j'étais pas malheureux, je savais mon père à l'extérieur du village, j'étais persuadé de retrouver ma maman et mes sœurs là nous moi.
Vous étiez finalement presque le seul en danger et vous en étiez sorti.
Oui, voilà, c'est tout. Quand je suis arrivé le dimanche, il devait être 18h ou 19h, je ne sais pas, que mon père m'a vu. Mais mon père savait déjà que je devais être vivant. Il avait rencontré un autre survivant. Il n'a pas été surpris de me voir, mais il ne savait pas ce qui s'était passé quand même. Quand je lui ai expliqué qu'ils avaient amené les femmes et les enfants vers le bas du bourg, je l'avais dit, vers le bas du bourg, qu'ils avaient tué tous les hommes dans les granges. Il a pris sa bicyclette sans rien dire. Puis il est venu jusqu'en Radour. Ma sœur habitait à 7-8 km de Radour à l'époque. Et c'est de là qu'il s'est approché de l'église et qu'il a vu le drame dans l'église.
Donc ni lui ni vous ne saviez à ce moment-là, lors de vos retrouvailles, ce qu'il était advenu de votre maman et de vos sœurs.
Même quand mon père est revenu, il n'imaginait pas qu'elles y soient toutes. Le lendemain matin, très tôt, il est parti à vélo, voir faire les forêts, voir s'il ne voyait pas que...
On essaie de se persuader que non, c'est pas possible.
On avait l'espoir que tout n'y soit pas.
Et malheureusement, la réalité était évidemment tout autre. Alors aujourd'hui, on l'a dit, il y a eu cette volonté du nouveau Radour, parce qu'évidemment, là, on a évoqué aujourd'hui des choses très difficiles. On le voit, hein, et on vous en remercie de nous en reparler encore aujourd'hui. C'est des choses qui sont encore très difficiles à vivre pour vous. Mais on finira cette semaine sur des notes plus positives, sur ce renouveau de Radour, sur cette histoire qu'il faut transmettre pour éviter, évidemment, qu'elle ne se répète. On verra aujourd'hui quelle est votre vision, peut-être, de la société dans laquelle nous vivons et qui, parfois, aurait tendance à nous rappeler des mauvais souvenirs. On verra ça en toute fin de semaine ensemble. Le temps, demain et jeudi, de rejoindre Benoît Sadri qui, lui, nous ramènera sur les lieux de ce village martyr qui est à visiter, évidemment, à Oradour-sur-Glane et qui fait ô combien partie de notre histoire. On se retrouvera, nous, donc vendredi, Robert Brass. Et notre troisième rendez-vous tout au long de cette semaine immergé au cœur du Limousin et de l'histoire d'Oradour-sur-Glane. Nous sommes installés pour ce troisième rendez-vous au cœur même des ruines du village martyr. Nous sommes en compagnie de Benoît Sadri, conseiller municipal et dont les membres de la famille ont été touchés par ce massacre du 10 juin 44. Et après avoir parlé avec Robert Ebras hier hein, de ces faits, de cette journée tragique, évidemment, on va un petit peu parcourir les lieux maintenant. Là, on se trouve dans la rue principale d'Oradour, celle par laquelle les soldats allemands sont arrivés?
Oui, les soldats sont arrivés par l'accès de côté de Limoges. Donc ils ont remonté toute la rue principale et en haut de la rue principale, ils ont séparé leurs hommes et qui sont partis pour encercler par le haut et par le bas le village et rassembler la population dans la rue principale pour la guider petit à petit jusqu'au champ de foire où hommes, femmes et enfants ont été rassemblés pendant à peu près une heure. Ce qui étonne souvent les visiteurs qui passent, la présence de la ligne du tramway, c'est un élément de la modernisation d'Oradour qui date de 1911, à l'époque où la Haute-Vienne s'est dotée de plusieurs lignes de tramway, et celle-ci reliait Limoges à Saint-Junien ou Bussière-Poitevine, puisqu'il y avait un échangeur un petit peu plus loin. Ça a été un des éléments de développement du village, puisqu'il a amené l'électricité très rapidement, en 1911, et également le maintien de certains commerces, puisqu'en fait c'était une ligne qui reliait Oradour à Limoges en l'espace d'une heure à peu près. Donc il y avait beaucoup de Limougeaux qui venaient se ravitailler, ça a été notamment pendant la guerre le cas, et le samedi 10 juin 44, malheureusement pour certains Limougeaux qui étaient venus se ravitailler, ils ont été pris aussi parmi les victimes.
Et c'est cette ligne qui permettait à Robert Ebras également d'aller travailler, lui, sur Limoges. Il nous l'a raconté également.
Exactement. Ça a été un vecteur aussi pour l'emploi. Hein, et ça a permis aussi à des gens de venir voir plus souvent leur famille ou même d'aller travailler presque quotidiennement à Limoges. Ça a été vraiment un sens du développement économique d'Oradour. Même si l'activité économique était riche à Oradour, puisque vous allez voir, il y a un champ de foire, une place du marché. La place du marché, c'est important parce que la première foire à Oradour date de 1560 et quelques. On annonçait des fois qu'il y avait eu jusqu'à 10 000 personnes à la foire d'Oradour. Donc c'était quand même très très important. Et donc on voit les vestiges du commerce. On voit que sur les murs du village, dans la rue principale notamment, on a essayé, parce que bon, les ruines ont travaillé, on subit des assauts du gel, des hivers. On a essayé, il y a maintenant une vingtaine d'années, de refiger sur place, par le biais d'un panneau, quelle était l'activité qui s'y exerçait. Et ça, souvent, ça surprend les visiteurs qui viennent, parce que voir qu'il y avait autant d'activités, mais c'est aussi se replacer dans une France rurale des années 40, où c'était un petit peu le quotidien de tous les villages. Dans chaque maison, il y avait une activité quasiment. L'artisanat était beaucoup plus développé et c'est l'un des éléments qui montre aussi la vie d'autrefois.
Donc là, on est entre le commerce de vin spiritueux en face, le travail de la laine qui était également dans cette grande rue. On voit également, donc à travers les ruines, évidemment, il y a la pierre qui s'est écroulée, mais on a des objets également qui sont restés de l'époque, ils n'ont pas bougé depuis 70 ans.
Tous ces objets, on a demandé aux familles survivantes de les laisser pour montrer aussi le quotidien des habitants. Et après le massacre, le premier conservateur s'est vraiment attaché à les protéger, à essayer de les recouvrir d'une solution qui permettrait qu'elles vieillissent avec le temps. Et c'est vrai, et c'est pareil, quelque chose qui surprend beaucoup. On voit beaucoup de machines à coudre dans l'ancien village, comme ça. C'est quelque chose qui marque les gens. Dans chaque maison, il y a une machine à coudre. Ben oui, mais c'était il y a 70 ans. Il n'y avait pas de magasin comme aujourd'hui. C'était, même s'il y avait des tailleurs, même s'il y avait des marchands d'habits à Oradour, mais c'était une autre façon de vivre aujourd'hui. Il y a par exemple, sur plusieurs panneaux en descendant la rue principale, le métier de feuillardier. Les gens ne savent plus ce que c'est qu'un feuillardier. Il faut être limousin pour savoir. parcours, avoir été visiter les cabanes de feuillardiers dans le pays de Chalut, etc., avoir travaillé le châtaignier pour savoir ce que c'est. Et donc, bon, voilà, ça a un double impact. C'est la leçon d'histoire et puis c'est aussi la leçon du temps qui passe pour les enfants, notamment, qui viennent visiter ici.
Et puis ça donne aussi un peu d'humanité. J'ai envie de dire qu'en voyant ces objets, on a plus de facilité à imaginer la vie qu'il y avait autour.
Ah oui, parce que on voit aussi un garage, par exemple, avec les voitures qui étaient en réparation à ce moment-là. On voit une ancienne forge avec tous les éléments dont servait le forgeron. Je dirais pareil pour la boulangerie, où on voit les vestiges de l'ancien four. Toute chose à Oradour ramène quand même au 10 juin, puisque il s'est passé des événements terribles un petit peu dans toutes les maisons, je dirais. Il y a des vestiges dans une maison d'un lit, on a retrouvé un vieux paralytique dessus. Enfin, toutes ces choses font que c'est un morceau de la vie des gens, c'est un petit peu d'humanité. C'est des plaques de cheminée avec le nom de la famille, la date de pose, tout ça ramène à l'histoire quotidienne des habitants.
Alors on va progresser un petit peu dans cette rue principale concernant le pourquoi d'Oradour-sur-Glane. Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce que c'est peut-être la physionomie, par exemple, de ce village qui fait qu'il était plus facile à encercler, plus facile à attaquer pour ses soldats?
Alors ça, je dirais que c'est la réponse finale. Le processus d'Oradour vient de bien plus loin. C'est une division SS d'Asreich qui a commis l'exaction à Oradour, qui avait été habitué, notamment à son parcours sur le front de l'Est, à de tels massacres et à de tels incendies de villages. Cette division était en reconstitution au printemps 44 dans la région de Montauban, et elle reçoit, juste après le débarquement, l'ordre de monter vers la Normandie, mais par un chemin spécial. L'ordre était de passer par le Limousin. Je veux dire, ce n'était pas la route normale pour aller en Normandie. On aurait pu faire ça beaucoup plus vite. Mais passant par le Limousin, il y avait un intérêt. C'est que les nazis avaient très peur que la résistance prenne le dessus dans ces régions-là. Que la population penche du côté de la résistance. Et ça, ils savaient que si ça arrivait, le combat était perdu. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir un front en Normandie et puis un front aussi partout. Donc il envoie une division d'élite qui sait faire ce travail pour mettre au plus mal les maquis régionaux. La veille, il y a Tulle, c'est une action de représailles vraiment envers la résistance. Mais Oradour, c'est plus subtil. Oradour, c'est il faut qu'on fasse quelque chose de très marquant pour les populations et qu'ils comprennent que s'ils rejoignent la résistance, voilà ce qui arrivera, voilà ce qu'on est capable de faire. C'est dans cette optique-là qu'il décide le 9 juin au soir d'une opération, qu'il concrétise le 10 au matin à l'hôtel de la gare à Saint-Junien, avec en collaboration des autorités de la milice, de la Gestapo, qui finalement lâchent le nom d'Oradour. La division avait un parcours, Oradour était sur ce parcours-là, on se renseigne sur la physionomie des lieux, on voit que le village, c'est une rue principale facilement encerclable ensuite, on se procure même les plans d'Oradour pour savoir où on parquerait les hommes, où on mettrait les femmes et les enfants. Tous les lieux d'exécution étaient choisis avant d'arriver. Donc c'est le résultat d'un processus bien plus complexe, et après c'est l'élément matériel, oui, la physionomie d'Oradour.
On passe à côté de certaines runes, on est appelé aussi via des plaques à se recueillir. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les visiteurs qui sont ici autour de nous respectent ce silence. On sent, sans avoir forcément besoin de le demander, qu'il y a cette chape-là qui s'instaure automatiquement quand on vient visiter, parcourir ce village martyr.
Je crois que le silence s'impose. Les gens ont conscience qu'ils ne visitent pas une ruine, je dirais, une gallo-romaine comme à Rome ou un château en ruine, etc. Ils savent, en venant ici, qu'il y a eu un événement terrible. Ils parcourent les ruines pour découvrir le village, mais tout aussi, je pense, pour l'essentiel des gens qui viennent visiter, en se posant la question... Pourquoi ? Comment on a pu faire ça ? Cette méditation, les visiteurs l'ont forcément en parcourant les ruines. Et de ça, le silence s'impose.
Là, on est à côté aussi d'une image qui reste bien ancrée. C'est ce véhicule qui a été brûlé, qui trône au milieu. Donc là, on est à côté de la place.
Alors là, voilà, nous situons juste à l'entrée de la place du Champ de Foire. Ce véhicule est une histoire dans l'histoire, pour dire les choses. Très honnêtement, ce n'est pas le véhicule en question. C'est un véhicule de substitution qui a été posé ici après. Mais ce véhicule avait pour sens de montrer le dernier véhicule entrant dans Oradour, conduit par un médecin qui avait été à un accouchement dans un village à côté. Il rentre à Oradour au moment de l'encerclement. Et donc, on fait garer sa voiture à peu près où elle est située aujourd'hui. Donc, quelques jours après le massacre, la famille a fait ramener la voiture du docteur dans la propriété familiale. Et celle qui se trouve aujourd'hui ici a été déposée, alors c'est quasiment le même modèle en plus, a été déposée ici parce qu'elle se trouve exactement à l'endroit où nous étions dans la rue et elle gênait pour les travaux de déblaiement qui ont eu lieu 4-5 jours après. Elle a été poussée là et donc les gens ont toujours dit c'est la voiture du docteur des autos. Et la légende est née comme ça et elle est restée pour les gens qui viennent visiter la voiture du docteur. Mais c'est bien qu'elle soit restée parce que c'était cette image que les gens ont voulu garder. C'est quelque chose qui avait du sens. Quelqu'un qui donne la vie, qui part à son tragique destin.
Et c'est aussi voilà un symbole de cette histoire d'Oradour. On va continuer nous de cheminer un petit peu au travers de ce village et puis on va se retrouver demain peut-être en allant jusqu'à un autre point évidemment marquant, c'est l'église de ce village. Et puis dans le rendez-vous de demain, on reparlera aussi de la vie parce que c'est important. Aujourd'hui, c'était la volonté aussi hein, ici à Oradour de remettre la vie en avant, que la vie soit plus forte que ce destin tragique. Et c'est ce que nous évoquerons ensemble demain. Et c'est notre quatrième et avant-dernier rendez-vous au cœur de l'histoire du Limousin et d'Oradour-sur-Glane que nous partageons ensemble. Alors on va parler, on va chuchoter pour ce quatrième rendez-vous puisque nous sommes au cœur d'un des symboles évidemment de ce drame d'Oradour, c'est l'église, hein, l'église de l'époque du 10 juin 1944 que nous foulons en ce moment et dans laquelle il y a vraiment beaucoup d'informations à retenir. C'est ce que l'on va voir avec notre guide Benoît Sadry. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal et vous faites partie des familles qui ont été touchées par ce drame. Cette église, c'est vraiment le symbole d'Oradour. C'est ce que l'on vient voir quand on visite, on parcourt ce village.
Effectivement, je pense que c'est vraiment le symbole de l'horreur dans toute sa dimension. Comme on peut le voir, c'est une petite église de campagne. Aujourd'hui, on la visite, il n'y a quasiment plus rien. Mais il faut se l'imaginer avec des bancs, des chaises, du mobilier religieux partout. Et il faut imaginer 450 femmes et enfants rentrer dans cette église le 10 juin, être fermées. Peu après leur arrivée, elles entendent tout ce qui se passe dans le village, elles entendent qu'on fusille les hommes. On peut imaginer la peur des enfants, la peur des femmes. Et une heure après, on amène une grosse caisse en plein milieu de l'église. On peut toujours voir d'ailleurs l'endroit où était la caisse et l'endroit où elle a explosé, puisque ça a marqué la pierre de l'explosion. Donc c'était une explosion pour étouffer en fait les femmes et les enfants. Et là les soldats sont aperçus que ça ne marchait pas, donc ils ont commencé à ce moment-là à rentrer par les portes, par les fenêtres, et ils ont tiré. Donc beaucoup de personnes ont été blessées dans cet endroit-là, hein. Madame Roufanche, l'unique rescapée, racontera qu'elle a vu sa fille mourir parce qu'elle a reçu une balle perdue au niveau de la carotide et qu'elle a été tuée en peu de temps. Elle raconte que quand elle est sortie de l'église, les femmes et les enfants hurler de douleur, mais pour beaucoup était encore en vie. Donc tout ce qui s'est passé après, dont elle n'a pas été témoin, mais que les faits nous ont montré, dès que le feu a été mis, dès que les soldats ont apporté les matières incendiaires dans l'église, on sait qu'une grande partie des femmes et des enfants étaient encore vivants. Donc oui, c'est le temple de l'horreur à Oradour.
Et puis je le disais, c'est un lieu qui exprime encore aujourd'hui, alors il suffit évidemment d'en avoir les explications, vous allez nous les donner, mais qui exprime la violence qu'il y a pu y avoir ici, ne serait-ce que par ce feu, par cette chaleur qui a été mise dans cette église.
Alors il y a beaucoup de choses qui montrent les impacts du massacre. Il y a d'abord sur les piliers et notamment sur la plaque de la guerre de 14-18 face à l'entrée quasiment, on voit tous les impacts de balles qui ont été tirés. Donc on voit les hauteurs aussi. Ils n'ont pas forcément toujours cherché à atteindre les hauteurs de corps, mais on voit des traces au niveau des jambes, etc. Après, il y a toute la partie incendie qui se concentre particulièrement dans la nef centrale. Le granit limousin, qui est habituellement une couleur gris, a changé de couleur dans cette partie qui a été très exposée à la chaleur. On estime qu'il y a eu entre 1200 et 1500 degrés à certaines parties. Le granit est devenu rose. Et en fait, c'est toutes les particules de fer qui ont réagi à la chaleur de l'incendie et qui ont transformé la couleur. Donc là, c'est vraiment l'un des éléments qui prouve l'enfer que ça pouvait être. Il y a également au fond de l'église la cloche qui a fondu. On sait que pour faire fondre du bronze d'une cloche, il faut à peu près 1200 degrés. Donc on imagine les conditions effroyables. Et paradoxalement, dans les chapelles latérales, là où la chaleur a été moins forte et où l'incendie a pas pu se développer, puisque c'était toutes les fumées de l'incendie qui allaient dans les chapelles latérales, puisqu'il y avait comme une espèce d'effet cheminée avec le clocher, eh bien, il y a encore des vestiges de mobilier en bois, un confessionnal d'un côté, dans une autre chapelle, un autel en bois, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend les touristes qui viennent et qui disent, mais comment se fait-il avec le feu que, c'est juste un effet de réaction physique, puisque la chaleur était concentrée avec les flammes sur un côté, et puis les rejets de l'incendie, les rejets de fumée partaient sur les côtés de l'église, et en fait, c'était des endroits assez protégés.
La chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'effectivement, au-dessus de nos têtes, là, l'église est à ciel ouvert, ce qui n'était évidemment pas le cas le 10 juin 1944. Le toit a cédé quelques temps plus tard.
Hein. Oui, les soldats avaient voulu mettre le feu à la charpente pour faire que l'église s'effondre, mais la voûte avait résisté. Elle ne s'est effondrée en fait qu'en fin octobre 1944, alors que les premières mesures de conservation étaient sur le point d'être prises, mais bon, elle a cédé avant.
Donc voilà, ne pas oublier qu'effectivement c'était un endroit clos au moment de ce drame. Et puis pour finir et avant de parler sur des choses plus positives et le renouveau d'Oradour, on a dit que votre famille, vous, était directement impactée hein, par ce drame. C'est le cas notamment d'enfants de la famille Sadri ici au sein même de l'église.
Ah oui, tout à fait. Il y a 6 enfants qui ont disparu là dans l'église avec. Certains avec leur mère d'ailleurs et
notamment dans ces confessionnals dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, il y a un enfant qui a été retrouvé dans le confessionnal et il fait partie des endroits où le feu n'a pas touché puisque bon, le confessionnal reste encore, mais à cet endroit-là la chaleur avait été tellement importante et la fumée avait été tellement importante qu'ils ont été étouffés et en fait on a retrouvé des corps desséchés. Ils étaient d'ailleurs pas identifiables. On a identifié l'enfant avec ce qu'il avait dans ses poches de culotte, quoi. Donc il avait un petit canif reconnaissable et une espèce de petite balle, et en fait c'est comme ça que les parents l'ont reconnu après.
Donc voilà pour ces faits. Alors évidemment, on va laisser le public venir prendre conscience. Hein. Je crois que ça ne s'explique pas, ça se vit tout simplement. Et je pense que ce qui reste aujourd'hui de ce village est suffisamment parlant. Et on va nous finir sur des choses beaucoup plus positives, puisqu'on l'a dit également en début de semaine, il y a eu une volonté à Oradour qui a souhaité se démarquer, parce que des drames comme Oradour, heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il en existe d'autres dans l'histoire. Et si ce n'est qu'Oradour a eu cette volonté de faire cohabiter l'histoire, mais surtout de redonner, de remettre la vie sur le premier plan.
Alors, c'est une volonté qui, à l'origine, n'est pas forcément celle d'Oradour, puisque finalement, après le massacre, il ne restait plus d'habitants de la cité d'Oradour. Pendant quelques mois, les mois de l'été 44 d'ailleurs, la commune n'existait plus officiellement. Le restant des villages avait été rattaché aux autres communes autour, pour des raisons administratives et surtout pour aider les gens dans leur démarche de recherche, etc. Il fallait. Mais néanmoins, l'État avait conservé un maire administratif qui a été nommé tout de suite après et qui a ouvert une première mairie dans un bâtiment plus loin. Mais la reconstruction d'Oradour, le fait qu'on soit dans la configuration actuelle d'un ancien village et d'un nouveau village qui se touchent, c'est pas une volonté d'Oradour, c'est une décision de l'État au niveau le plus haut. Donc l'État tout de suite a décidé de conserver Oradour. C'est le général de Gaulle l'annonce en visite à Oradour le 4 mars 1945, et c'est une loi du 10 mai 1946 votée à l'Assemblée nationale sans débat qui érige tous les principes de reconstruction d'Oradour et de sauvegarde de l'ancien village. C'est dans cette loi qu'on trouve que on garde le village et que pour une maison détruite dans l'ancien village, on en reconstruirait une dans le nouveau village. L'État a voulu montrer voilà ce qui pouvait arriver et ce qu'a subi la France pendant les années d'occupation, mais voilà aussi un village qu'on veut reconstruire comme un village modèle à côté, et ça, c'est ce que la France peut être capable de faire de mieux quand elle est grande. C'était à peu près les termes de la loi. Et ces deux images, finalement, il a fallu que les survivants, les familles, les habitants, les nouveaux habitants aussi, vivent avec ça. Finalement, les gens qui sont arrivés ici étaient pour l'essentiel des jeunes, parce que la plupart des survivants sont comptés parmi des jeunes. Pourquoi ? C'est un peu l'effet du hasard, mais certains, comme Robert Ebras, on s'aperçoit, c'était quand même des gens relativement jeunes qui ont pu s'enfuir avec lui, mais on s'aperçoit que les gens qui se sont cachés dans leur maison, c'était aussi des jeunes, parce qu'ils ont eu peur d'être déportés pour le STO. Et en fait, je pense que c'était peut-être ce qui a beaucoup aidé Oradour d'ailleurs, c'est que c'est des gens qui avaient leur vie à construire. Et en fait, en même temps que leur vie à construire, ils avaient un village à reconstruire, mais au sens de reconstruire, alors non pas village des maisons, mais reconstruire une vie sociale, une vie associative, une vie économique, une vie d'un village normal. Et ça, je pense que effectivement, ça, avoir de jeunes survivants qui ont voulu se lancer, qui ont réouvert des commerces, petit à petit, la vie est revenue comme ça. Après, il a fallu que la municipalité, quelques années après, aide un petit peu au retour de la vie, parce qu'une vingtaine d'années après le massacre, toutes les maisons du nouveau village n'étaient pas habitées, et il a fallu trouver des solutions pour faire venir de nouveaux habitants. Et en fait, la solution, ça a été de faire venir à Oradour des entreprises. Ça a été une première entreprise de mobilier scolaire qui est venue s'implanter, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et ça a amené une nouvelle jeunesse à Oradour, des jeunes qui sont partis de leur région natale, hein, j'ai quelques exemples en tête, et qui sont venus, qui ont fait leur vie à Oradour d'ailleurs, et qui sont restés. Et c'est devenu finalement un lieu de vie tout à fait agréable, et c'est vrai qu'aujourd'hui on vit à Oradour comme dans n'importe quel village. Les deux bourgs sont l'un à côté de l'autre, mais finalement ne sont pas en contact étroit. Il y a quand même des transitions entre les villages qui font qu'on vit très bien dans le nouveau village sans avoir forcément en face de soi les ruines de l'ancien.
En tout cas, c'est votre volonté, à vous en tout cas, en tant que conseiller municipal, de faire cohabiter ce pan d'histoire et ce renouveau. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de village martyr, hein, c'est comme ça qu'on nomme souvent Oradour. Pour vous, ce sera plutôt village mémoire, c'est comme ça que vous avez plutôt envie de présenter Oradour-sur-Glane aujourd'hui ?
Ah oui, complètement, puisque le village martyr s'identifie à dans les limites du vieux village, mais Oradour dans son ensemble, avec l'ancien village et le nouveau, c'est une ville, un village mémoire, et c'est une appellation qui n'est pas spécialement de nous, c'est aussi une appellation qu'on choisit de se donner toutes ces villes qui, de par le monde, ont subi de telles exactions. Alors, au moment de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ou même après, ces lieux ne sont pas donneurs de leçons, mais imposent un certain respect et imposent peut-être une certaine expérience aux gens et les amènent à la réflexion.
Et notamment avec des expositions, par exemple, qui ont été organisées ces derniers temps pour raconter la reconstruction d'Oradour au cœur même de cette nouvelle commune. Donc c'est vraiment une façon de faire cohabiter l'histoire et le présent aujourd'hui.
Oui, on cherchait une idée un petit peu originale pour présenter Oradour, faire que les gens qui viennent visiter l'ancien viennent aussi dans le village. Et on a choisi de faire en fait une exposition itinérante dans chaque commerce du nouveau village où on présentait sur un panneau, voilà Oradour, ça s'est reconstruit comme ça, voilà pourquoi ça s'est reconstruit comme ça, quelles sont les choses architecturales, et puis voilà aussi ce que des gens ont offert à Oradour, des œuvres d'art, des peintures notamment, et c'est comme ça qu'on a permis à certains de découvrir qu'on avait un magnifique tableau impressionniste, on avait un Picasso à Oradour, il y avait un poème d'Aragon, et les gens ont découvert ça avec plaisir tout au long de l'été, sont venus un petit peu plus dans le nouveau village, et c'était aussi une façon de faire vivre le village, ouais.
Donc c'est l'histoire, mais c'est aussi un trésor à venir y découvrir, et on va se laisser surprendre en tout cas par ce nouvel Oradour que nous découvrons tout au long de cette semaine. On n'a pas tout à fait terminé, on va se séparer en ce qui nous concerne, Benoît Sadri, mais on va terminer la semaine demain avec Robert Ebras, comme nous l'avons commencé, pour évoquer sur une note aussi positive, parce que c'est comme ça qu'on avait envie de finir cette semaine, sur ses beaux souvenirs, parce que effectivement Oradour ce n'est pas qu'un drame, c'était pour Robert Ebras 18 ans de jeunesse avant le 10 juin 44. Il va revenir avec nous sur certains de ses beaux souvenirs, et ce sera pour terminer la semaine ensemble demain. Et nous allons déjà refermer cette semaine autour de la grande histoire du Limousin et d'Oradour-sur-Glane précisément, que nous avons partagé ensemble depuis lundi en compagnie de Benoît Sadri, qui nous a fait partager hier et avant-hier la visite du village martyr, et puis Robert Ebras, rescapé de ce massacre, qui nous accompagne également depuis lundi. D'abord, une chose importante, c'est que vous l'avez dit, vous êtes né à Oradour-sur-Glane, vous n'avez jamais envisagé de quitter la région. On peut se dire, certains auraient fui très loin pour essayer de tourner la page. Vous avez tenu à rester ici.
J'ai eu l'opportunité, après la construction du nouveau village, d'ouvrir un garage, modestement. Et j'ai eu la chance que mon affaire marche. C'est tout. j'ai travaillé pour que ça marche. Donc je suis resté à Oradour. Je ne suis pas resté pour rester ici. Et il y a le même cas pour M. Dartout, qui est encore de ce monde, malheureusement, en très mauvaise santé. M. Dartout, c'est l'inverse, n'ayant pas de travail ici, est parti à Paris et a fait sa carrière pendant 30 ans à Paris. Il est revenu dans la région, dans son village natal, où il a fait construire. Moi, je n'ai pas envisagé un jour de rester ou de m'en aller.
Il n'y a pas de volonté absolument de fuir les lieux, en tout cas.
Je n'ai pas pensé du tout. Je n'ai même pas pensé. Donc, j'ouvre ce garage ici. J'étais marié chez mes beaux-parents, à quelques kilomètres d'ici. Donc, j'ai ouvert ce garage que j'ai exploité, je vous dis, une dizaine d'années, 10-12 ans, que j'ai vendu à mon ouvrier, parce que c'était, j'avais un ouvrier qui l'a fait prospérer et qui aujourd'hui, c'est son fils qui l'exploite.
Alors aujourd'hui, vous vivez à Saint-Junien, donc toujours au cœur du Limousin.
Oui, c'est-à-dire que ayant acheté une affaire à Saint-Junien, maintenant, vu l'âge que j'ai, je suis quand même à la retraite. Et j'avais fait construire sur la commune de Saint-Junien. Je suis presque aussi près de l'hôtel de ville d'Oradour que l'hôtel de ville de Saint-Junien, mais enfin, j'habite Saint-Junien.
Presque au cœur de votre histoire, ça fait partie de vous ?
Il y a le pour et le contre. Si j'étais plus loin, certainement qu'on parlerait moins de moi. Et puis malheureusement, il n'y a plus que moi qui est témoin de ce qui s'est passé ce jour-là.
Mais finalement, on est quand même bien en Limousin, donc...
Oui, non, mais j'ai jamais envisagé d'aller ailleurs. Alors.
Et puis la vie reprend le dessus. On s'accroche à quoi ? Évidemment, il y a une date, on l'a dit, une après-midi où tout bascule. Mais on l'a dit avant, il y avait quasiment 19 années de bonheur. Si je vous demande des petits les souvenirs simples de bonheur sur lesquels vous pouvez peut-être vous raccrocher aujourd'hui pour essayer que la vie soit plus forte.
Il y a une quantité de souvenirs simples. Par exemple, j'avais mon voisin qui était jardinier. J'allais lui voler quelques fraises de temps en temps. Et quand j'allais à l'école, il me disait, fais-moi tes sabots. Mais pour savoir, pour les empreintes. Alors, il me disait, je vais le dire à ton père.
C'était les experts déjà à l'époque.
Il a jamais dit à mon père. Oui, des anecdotes comme ça, des chutes à vélo,
des petits souvenirs simples, et c'est aussi à ça qu'on s'accroche pour ça aussi votre vie d'Oradour.
Ben oui, c'est ma vie d'Oradour, c'est l'école, c'est quand même l'école, c'est une vie d'enfant et d'adolescent.
Ça veut dire qu'évidemment, vous avez reparcouru les ruines aujourd'hui de ce village. Est-ce que l'imaginaire est reconstruit presque ces lieux ?
Enfin, si je visite comme ça, je vois les ruines. Mais si ça m'arrive de réfléchir, là, à ce moment-là, je revis dans mon village. Là.
On réentend les bruits qui faisaient vivre ce village ?
Les cloches de l'église, le marteau du forgeron, les odeurs. Des odeurs, parce qu'à l'époque, dans la rue, il y avait les poules, les chiens, les paysans qui passaient avec leurs vaches, qui crottaient. Enfin, bon, c'était...
Oui, c'est vrai qu'on a parlé du drame qui a du mal à s'effacer de la mémoire, mais heureusement, ces très bons souvenirs, eux aussi, sont ancrés dans la mémoire.
Oui. Moi, j'ai de bons souvenirs d'enfance. J'ai été élevé dans une famille modeste, mais j'étais heureux. J'étais gâté, j'étais le seul garçon de 4 enfants.
Le petit prince, le roi ?
Oui, presque un peu, oui, mais je... aussi bien les sœurs que la maman, il n'y en avait que pour le garçon.
Voilà. On ne s'en plaint pas.
Non, on ne s'en plaint pas.
Et avant de terminer dans une seconde sur ce nouvel Oradour et votre regard sur ce nouveau Oradour, on parlait de l'époque d'aujourd'hui où parfois on a ce sentiment que le racisme, malheureusement, est toujours un petit peu présent. C'est des choses qui vous font peur quand vous regardez l'actualité. Quel regard vous portez sur ces comportements parfois un peu inquiétants, qui parfois sont tout à fait banals au quotidien, mais voilà, quand on a vécu ce que vous avez vécu.
Ça me fait très peur. Ça me fait très peur pour... j'ai quand même un fils, j'ai des petits-enfants, j'ai un arrière-petit-fils. Ça me fait très peur pour eux. Moi, ma vie est finie. Aujourd'hui, on vit une période qui est peut-être pire que la période de guerre. Parce que la période de guerre, dans des régions comme chez nous ici, la guerre était très loin.
Aujourd'hui, elle est un peu à tous les coins de rue.
Aujourd'hui, elle est à tous les coins de rue.
un mot sur l'avenir. Il y a ce nouvel Oradour, votre regard aujourd'hui, qui s'est construit à côté avec... il revit, il y a des événements, il y a des festivals.
Le nouvel Oradour revit, il a mis longtemps, très longtemps à revivre, mais aujourd'hui il revit comme n'importe quel village. Au contraire, il revit même très bien. J'en suis très heureux pour les jeunes d'Oradour.
Avec une belle cohabitation, parce qu'on n'oublie pas l'histoire avec ce centre de la mémoire et le renouveau.
Et le renouveau, ben c'est les deux. Il ne faut pas oublier, mais il faut continuer à vivre.